Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel 106.8. Bienvenue dans l'émission Le Domaine du Possible avec Lynn. Chaque mois, nous avons rendez-vous pour découvrir des individus, des actions, des élans de vie qui nous donnent le goût d'avancer et de construire un monde meilleur. Aujourd'hui, je vais vous présenter Marie Dubreuil, exploratrice de l'humain, co-créatrice d'un centre de santé holistique, Souffle, à Marchéville qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine. À la fois danseuse, docteur en sciences humaines, naturopathe, praticienne en massage ayurvédique, en approche énergétique, ou encore écrivaine, mère de 4 enfants, Marie Dubreuil, cet être authentique, a su trouver l'équilibre à travers 3 constantes. Le mouvement, le lien social et l'intériorité.
Bonjour.
Bonjour Marie Dubreuil, je suis très contente de pouvoir t'interroger aujourd'hui. Je vais t'interroger sur ton parcours et si tu veux bien partager un petit bout de ta vie avec nous.
Alors mon parcours, il peut sembler éclectique, mais il est traversé par 3 lignes de force. La première ligne, c'est autour de l'artistique, donc de la danse et du mouvement. La deuxième ligne, c'est autour du social et de l'économique. Je pense que je suis quelqu'un de très impliqué à ces niveaux-là. Et la troisième ligne, c'est autour d'une démarche intérieure. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc pas très tôt en soi, dans une école qui s'appelle donc l'école Chantraine, expression corporelle et danse à l'époque. Et ensuite, dès 17 ans, donc 3 ans après, j'ai eu envie d'approfondir. Et là, j'ai suivi plusieurs cours, dont des cours avec des tout-petits, entre autres. Et toute la formation en danse s'est faite sur ce mode-là, c'est-à-dire en lien avec ce qui bouge, avec ce qui vit. Donc je suivais des cours, puis peu à peu, j'ai participé à des cours plus professionnels. Et cette école-là, à un moment donné, on est prêt, on se sent prête, et on donne des cours. Et j'ai commencé à donner des cours à l'âge de 24 ans, en Eure-et-Loir. Dans la danse, j'ai à un moment donné commencé à avoir des enfants et j'ai poursuivi en créant ma propre démarche, ça s'appelle la danse expressive. On danse selon sa propre expression. Donc mon parcours universitaire, lui, il est relié au social et à l'économique. Pareil, c'est un parcours atypique, donc j'ai suivi les cours du collège coopératif. J'ai commencé directement par la maîtrise, pour ceux qui connaissent plus, c'est une bac plus 4. Et j'ai passé ce qu'on appelle un DUEPS, diplôme universitaire d'études de la pratique sociale. Donc, un diplôme qui crée le lien entre la théorie et la pratique. J'analysais des pratiques. Et je suis allée jusqu'au niveau thèse de doctorat, donc bac plus 8, toujours dans la même veine. Même si en France c'est tellement peu connu et peu reconnu, évidemment on rentre un petit peu plus dans un moule. Mais quand on est en thèse, on a très peu de cours. On est obligé de travailler par soi-même.
Beaucoup. Sur le terrain.
Oui, sur le terrain. Oui. Voilà.
C'est toute la force de cette formation aussi.
Voilà. Oui. Au fil ou au fur et à mesure de cette formation, j'ai fait partie d'associations qui, par exemple, proposaient à des jeunes chômeurs de ramasser de vieux papiers, vieux cartons, vieilles bouteilles plastiques qu'on a mis en place, ça c'était sur Illiers-Combray. Et j'ai comme ça accompagné des associations qui se créaient, soit à un niveau départemental, soit à un niveau régional. Par exemple, au niveau régional, une association qui s'occupait d'économie solidaire, dans laquelle ensuite j'ai travaillé comme formatrice. Et tout au long de ce parcours, ce qui me semble intéressant vraiment à dire, c'est que, suite à un voyage en Inde, mais ça on en parlera je crois après, j'ai travaillé auprès de ce que j'appelle les cassés de la vie, au sein du Greta. Mon travail consistait profondément à permettre aux gens de reprendre dans leur propre histoire leur ligne de force pour qu'ils puissent les insuffler dans ce qu'ils voulaient faire maintenant. Donc dans ce qu'ils décidaient de faire dans leur vie maintenant. C'est-à-dire que j'avais des gens qui avaient été au chômage technique, des gens qui étaient devenus handicapés, par exemple le boulanger qui ne peut pas respirer la farine, une maman qui avait eu des enfants, qui s'était arrêtée, des sortants de prison, des femmes battues.
Enfin, des marginaux. Quoi.
Des marginaux, beaucoup. Mmh. Ce qu'on appelle dans notre société les marginaux.
En marge. Mmh.
Mais que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait...
Révéler leur potentiel
voilà.
Perdu un peu.
Oui. Mmh. Ouais, révéler, leur permettre de se révéler. Et okay. De prendre leur vie en main.
Ensuite, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton virage vers la naturopathie, l'ostéopathie, la relation d'aide ? C'est venu pendant, après, c'est toujours
Tout est imbriqué chez moi. J'ai dansé beaucoup, hein, donc entre 19 et 21 ans, et à 21 ans, je me suis cassé le genou gauche. Hôpital, voilà, je ne vous explique même pas l'hôpital. Et à la sortie, bah, il a fallu que j'aille suivre des séances de kiné. Et le kiné n'était absolument pas holistique. Ce qui l'intéressait, c'est que mon genou plie. Or, si mon genou ne plie pas, il y a une raison. Il y a une raison profonde. Et donc, il tirait sur mon genou avec un système de poulie. Il me faisait mal à la hanche, mais comme c'était la hanche, il continuait. Et suite à une seule séance, je suis sortie de cette séance et je vomissais dans les caniveaux. J'étais à Paris à l'époque. Et donc, j'ai décidé de ne plus jamais y aller. Et c'est là que mon parcours holistique a commencé.
Wow.
Donc, je suis allée voir à Paris une kiné Mézière. Donc, Mézière, c'est celle qui prend en compte tout le corps. Et là, je me suis aperçue que tout d'un coup, elle prenait en compte tout le corps. Et quand je suis repartie de Paris, là où je faisais en fait une formation d'éducatrice de jeunes enfants, je suis revenue à 23 ans donc, dans le secteur de Eure-et-Loire. Et là, j'ai commencé à travailler en lien avec un ostéopathe. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a accompagnée pendant plus de 20 ans dans un parcours de recherche sur moi-même, en quelque sorte. Et ben, pareil, il était dans la même veine holistique. Et séance après séance, je découvrais l'énorme potentiel de l'humain, en fait.
De l'être.
De l'être, ouais.
Super. Alors Marie, est-ce que tu peux nous préciser, peut-être nous définir cette belle expression de l'être profond ?
L'être profond, c'est tout ce qui vibre en nous. Ces vibrations, on en a conscience ou non. Mais toutes ces vibrations qui sont en nous peuvent à un moment donné, par des approches précises et très, très fines, émerger. Tous nos mouvements intérieurs sont là, en attente. On veuille bien aller les chercher.
Comme l'eau qu'on donne à une fleur, par exemple, pour qu'elle puisse s'épanouir.
Exactement. Mm. Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous mettre en lumière les déclics qui ont fait que, professionnellement parlant, tu as eu l'envie de te lancer dans cette dimension holistique, d'aider, d'accompagner l'autre à se réconcilier avec lui-même ? Qu'il puisse se réapproprier le sens de la guérison.
De sa guérison. Curieusement, je vais partir d'un peu plus loin. J'aime me démarquer. Mon père avait décidé à un moment donné qu'on ferait toutes, donc les cinq filles, je suis la deuxième d'une famille de cinq filles, qu'on ferait toutes une voie scientifique pure. Donc à l'époque, ça s'appelait C. Et au bout de un mois de terminale C, j'ai demandé à aller en D, c'est-à-dire en biologie. J'ai été soutenue par ma mère. Je crois que le professeur de biologie de cette terminale était tellement extraordinaire que c'est là que tout a commencé. C'est resté un tout petit peu en jachère, bien que à l'école de danse, Chantraine, où j'étais, on y faisait très attention parce que toutes les postures étaient... on était dans un bon placement. Et tout était expliqué. Elle parlait des os, etc. Voilà. Donc j'ai continué, j'ai poursuivi. Et je pense que le déclic, le vrai déclic, c'est mon genou gauche qui pète et qui m'oblige à aller regarder et à ne plus le lâcher jusqu'à ce que je devienne professionnelle. Donc j'avais conscience que je n'avais aucune formation médicale, reconnue bien sûr, et du coup j'ai commencé un travail sur moi. Et ensuite, quand ça a émergé grâce au Pranic Healing en Inde, j'ai poursuivi, du coup, en suivant une formation de naturopathie. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus occidental. Et ensuite, j'ai continué en vivant dans un centre de naturopathie, en allant en Inde et en Allemagne, dans les centres qui permettent d'aller directement au cœur. Alors, donc, le Pranic Healing en Inde et en Allemagne, je suis entrée dans une clinique pour voir un petit peu comment les personnes intervenaient un petit peu différemment. Et puis ensuite, je suis allée suivre l'enseignement d'un Américain qui s'appelle Richard Moss. Donc c'est tout un travail sur la conscience. Et pour terminer, par quelque chose qui pouvait sembler d'emblée plus évident, c'est le massage ayurvédique, c'est du massage indien. Donc je suis formée depuis quelques mois. Enfin, j'ai fini la formation depuis quelques mois. Et c'est une très très belle aventure. Le massage ayurvédique.
Marie, comment as-tu rencontré l'Inde ?
En fait, c'est l'Inde qui est venue à moi. Quand on a cherché où aller poser nos pénates en famille pendant un certain temps, c'est en Inde que nous sommes allés, mais on n'a pas choisi l'Inde, on a choisi que le projet dans lequel s'insérait, et il se trouve qu'il était en Inde. J'ai écrit quelque chose sur l'Inde, un petit poème, c'est quelque chose que je ressens fort, un des berceaux de l'humanité, un des sursauts de l'extrême bonté, un des roseaux de l'éternité. Ça exprime profondément ce que j'ai vécu là-bas, même si ça n'a pas été si simple pour moi, qui étais quand même quelqu'un de bien cadré, bien organisé, et qui... J'ai toujours décidé de ce que j'allais faire dans ma vie avant l'Inde. L'Inde m'a trituré, l'Inde m'a... est venue me chercher dans tous mes retranchements, et l'Inde, du coup, m'a propulsé vers moi-même. En Inde, on n'est jamais tranquille, on est toujours porté, parce que la plupart des Indiens sont vraiment dans une dimension spirituelle. Et donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on doit faire. On n'a pas à décider, les choses viennent par elles-mêmes. Alors évidemment que dans ma besace, quand je suis revenue en France, j'avais tout ça. Et comme je suis une formatrice née, je suis très naturellement retournée vers la formation, avec un leitmotiv dans ma tête, je ne ferai plus jamais pareil. Mais quand vous partez avec une phrase pareille, le premier jour de formation, en vous étant obligé à ne pas préparer cette formation, vous êtes obligé de vous caler à vous-même et au groupe que vous avez en face, et d'être là au moment où les choses se passent, et de réagir à ce qui est en train de se passé. Et tout ce que j'ai fait à ce moment-là, je l'ai consigné dans un livre parce que je trouvais ça important. Donc le livre, c'est un nouvel enjeu pour la formation, l'écoute particulière, et il a été édité par les éditions Yves Michel. Ne plus s'obliger à devoir répondre à des programmes, ne plus s'obliger à devoir faire des choses parce que c'est ça qu'on doit faire, ne plus s'obliger à partir avec dans sa besace la moindre minute préparée. C'est une libération.
Qu'est-ce que tu as retrouvé un peu d'indien qui t'a parlé en France ?
En fait, moi, à Auroville, j'ai commencé à travailler dans un journal, mais très vite, je me suis tournée vers ce qui me plaît beaucoup, c'est les enfants. Donc, je suis allée travailler dans les écoles où j'ai donné des cours de danse. Et ensuite, je suis allée travailler auprès d'enfants des rues. Mais ça, c'était une association indienne de Pondichéry. Et je crois que ce travail en profondeur, alors c'est l'Inde qui nous travaille aussi. L'Inde, elle est pétrie d'histoire. C'est des gens qui sont vraiment, qui sont reliés.
La
sont
spiritualité. Reliés,
voilà, qui sont très spirituels. Et quand on vit, parce qu'on a vécu quasiment 8 mois là-bas, au bout de 7 mois, j'ai ressenti le besoin d'aller travailler plus loin. Et donc, j'ai suivi une formation qui s'appelle le Pranic Healing. Et là, en fait, j'ai révélé un don en 1 heure de temps. Donc, ça s'est passé à un niveau énergétique. Et donc, le lien vers la France, ou ce qui m'a après amené à poursuivre en France, c'est que ça m'habitait tellement que toutes les secondes de ma vie, c'est peut-être un peu prétentieux entendu comme ça, mais j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur cette énergie, sur ce lien avec ce qu'on nomme là-bas les chakras, mais qu'on nomme aussi ici. Et le lien que j'ai fait avec la France, c'est que je pense qu'en France, nous avions besoin petit à petit de nous relier à notre ressenti. Ce que j'ai appris profondément avec le Pranic Healing, c'est que nous sommes traversés par des énergies. Donc une énergie, elle traverse dans le corps et elle traverse autour du corps. C'est pas simplement à l'intérieur, c'est un ensemble plus vaste. Si je remets en bonne circulation toutes ces énergies, ben je permets à mon corps de justement entrer en résonance complète avec lui-même. Si je suis en capacité de redonner du souffle à quelqu'un, cette personne va reprendre pied dans sa propre vie. Mais, et c'est le plus important de tout ce que je peux porter en moi, c'est à sa propre façon. La personne, toute personne, sait quel mouvement elle doit suivre maintenant. Mon travail consiste profondément à lui ouvrir, à lui permettre d'ouvrir ses propres portes, pas les miennes, les siennes. Et une dernière chose dont je souhaite parler, c'est qu'évidemment, comme dans tout parcours initiatique, j'ai suivi aussi les enseignements d'un grand sage indien. Donc ce grand sage indien, il a comme particularité qui me plaît beaucoup. Si tu fais quelque chose, c'est bien. Si tu ne le fais pas, c'est bien. Si tu suis mon enseignement, c'est bien. Si tu ne le suis pas, c'est bien. Et c'est ce qui m'a plu. C'est un enseignement ouvert, c'est un enseignement très précis, non pas sur ce que j'ai à faire maintenant, mais sur ce que la vie peut m'apporter. Et je terminerai en donnant 3 mots qui me caractérisent. Le premier, c'est mouvement. Le second, c'est transmettre. Et le dernier, c'est liberté intérieure. Mais je ne suis pas partie un beau matin avec ces mots pour construire ma vie. Ils me sont venus au fur et à mesure.
Alors, avec ton compagnon de vie, vous avez décidé de co-créer sur ce, entre autres, un centre qui se nomme le Centre Souffle, à Marchéville. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Lorsque je vois toutes ces personnes très malades, je me dis que c'est peut-être intéressant qu'il existe un lieu, mais il en existe d'autres, je ne suis pas la seule, où les personnes puissent simplement venir, entre autres, déposer leur fardeau, montrer ce qu'elles ont et être écoutées. Et puis surtout, avoir une réponse, ce que j'appelle de type approprié. Si j'ai mal au coude droit, je n'ai pas mal au coude gauche. Si j'ai mal au ventre, je n'ai pas mal aux pieds. Si j'ai mal à la tête, eh bien, la tête me dit quelque chose. L'endroit où j'ai mal parle lui-même. Et si c'est à droite, si c'est à gauche, si c'est une douleur forte, une douleur légère, une douleur qui se continue dans le temps, qui est là depuis, tout a de l'importance dans ce que les gens vont raconter. Et parfois, les personnes mettent un certain temps avant de comprendre qu'elles peuvent elles-mêmes agir sur ce qui leur arrive. Par exemple, un des types de massage ayurvédique s'appelle l'abhyanga, c'est un massage de tout le corps. Lorsque on remet simplement en circulation les énergies, lorsque on détend la personne parce que on la masse, lorsque on prend le temps qu'elle puisse exprimer peut-être une situation difficile qu'elle est en train de traverser, la personne peut ressortir en ayant plus mal du tout là où elle avait mal en entrant. J'ai même une histoire drôle. Il y a une personne qui vient me voir. Lorsqu'elle entre dans ma cour, ses douleurs disparaissent.
Maladir, la douleur peut être simplement l'expression d'une émotion bloquée.
Ah, tout à fait.
Ça te parle.
Ah oui, tout à fait. Oui. Donc si on arrive à si la personne arrive à l'exprimer vraiment, à y arriver, à la toucher par elle-même, alors elle commence à entrer sur son propre chemin de guérison.
Et il devient gay et il est amené à rire, donc à guérir.
Hey.
Alors Marie, dans ton idéal, aujourd'hui, comment tu imaginerais que la santé puisse être comprise et que les patients puissent être accompagnés?
La première des choses, c'est que toutes les personnes qui œuvrent dans le même sens que ce que je souhaite proposer soient reconnues profondément et non plus considérées comme des charlatans. Une première chose. Nous ne nous substituons pas à la médecine officielle. Certaines maladies doivent être guéri par la médecine officielle et on en est tous d'accord et nous on respecte ça. Sauf que il y a beaucoup de petits ennuis qui pourraient être traités de façon beaucoup plus douce, de façon beaucoup plus peut-être lente hein, a priori, mais qui pourraient être prises en charge. C'est pas prise en charge, c'est les personnes devraient pouvoir se tourner vers nous de façon très naturelle, en quelque sorte, sans se dire « oui, mais qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. » Ça fait partie du jeu. Il y a, en Inde, par exemple, il n'y a pas de différence entre le pranic healing et l'hôpital qui va soigner un cancer. Ça travaille de concert. Et je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant pour les personnes qui, justement, souvent, quand elles viennent nous voir, mal.
Et complémentaire.
Et c'est surtout complémentaire. Tant que ça ne sera pas considéré comme complémentaire, eh bien, je trouve qu'il manque quelque chose à cette médecine, qui est une médecine, on peut le dire, qui fait ses preuves, mais pas dans tout. Et dans certains... J'ai une infirmière, par exemple, qui était venue me voir parce que son fils avait un zona et m'a demandé de le travailler, de permettre que ce zona s'arrête, ou se soigne, se calme. Et je suis allée la voir en lui disant, mais pourquoi, en tant qu'infirmière, tu ne lui as pas donné quelque chose? Parce que ils ne savent pas soigner. Ça, les brûlures. Donc, il y a des liens qui doivent être faits et qu'on reconnaisse que certaines choses, certaines pathologies peuvent aussi être abordées par des personnes qui vont être plus douces, qui vont l'aborder un petit peu différemment.
Peut-être revenir aussi davantage aux causes plutôt que de traiter à chaque fois les symptômes, finalement.
Ah ben, de toute façon, moi,
revenir un peu à l'origine.
Je ne suis que partisane de travailler sur les causes. Parfois, on trouve une cause et la manifestation s'arrête.
Marie, je tiens à te remercier pour cette très belle émission et le plaisir que j'ai eu à t'interviewer.
Eh ben, je te remercie, Lynn, d'être venue.
Je vais vous lire un extrait du livret écrit par Marie Dubreuil, Un nouvel enjeu pour la formation L'écoute particulière, aux éditions Yves Michel. L'importance du corps. Le corps permet, en fait, un centrage de soi envers l'autre, et c'est essentiel. Il s'agit plus précisément d'un ancrage, celui-ci étant le garant de cette écoute particulière. En Asie, on l'appelle le hara. C'est tout simplement cette zone du bas-ventre qui doit demeurer calme. On peut comparer cette attitude à une mer sans vagues, une zone sans turbulence intérieure, un espace vide. Cela permet simplement de pouvoir contenir tout ce que la personne, ou par extension le groupe, apporte. Le corps est vraiment le vecteur de ce centrage. Je suis heureuse d'avoir rencontré Marie sur mon chemin. En toute simplicité, présence et écoute, je vous invite à découvrir le Centre Souffle à Marchéville et les livres de Marie Dubreuil, dont vous trouverez les références sur le site de Radio Grand Ciel, émission Le Domaine du Possible. Je remercie chaleureusement Marie pour son partage de vie. Merci à Alexia et à Simon pour leur aide précieuse à la réalisation de cette émission. Retrouvez Le Domaine du Possible le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et soyez créatifs.